Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nous sommes pour la présentation. Ouverture ce lundi des états généraux de l'agriculture. Le gouvernement veut refaire de ces secteurs la priorité des priorités, de manière à ne pas reposer toutes les actions de développement sur les recettes du secteur minier. L'insécurité à Butembo perturbe la production des médicaments dans les laboratoires de l'Université catholique du Graben. L'institution dit ne plus être en mesure d'importer les intrants nécessaires. Notre invité est Nsafwasa Disiki, il est manager du programme Wildlife Conservation Global pour le projet de conservation de l'Okapi. Bonsoir à tous. Le gouvernement a pris l'option de ne pas reposer toutes les actions du développement de la RDC sur les recettes générées par les mines. Selon le Premier ministre, il faudra désormais compter aussi sur l'agriculture qui va redevenir la priorité des priorités. Jean-Michel Samaloukonde s'est ainsi exprimé à l'ouverture du Forum des États généraux de l'agriculture, c'est lundi à Kinshasa. On l'écoute au micro de Tati Mapoukou.
Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ses espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra et réellement dans ce pays la priorité des priorités. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement qui aura entre autres pour vocation de financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un appel à tous les cadres de ce pays de se préparer d'ores et déjà pour que chacun se construise un toit et un champ au village.
Direction le Sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega connaît actuellement une diminution sensible de la fréquentation touristique, une situation attribuée à l'apparition de la pandémie de Covid-19. Ainsi, la direction de ce parc appelle les Congolais à valoriser le tourisme interne en visitant leurs propres sites touristiques. Le directeur chef de site de l'ICCN au parc national de Kahuzi-Biega s'est exprimé ce lundi à l'occasion de la célébration de la journée mondial du tourisme. Des dieux Biaombe est au micro d'Emmanuel Elamejo Akabedi.
Kahuzi-Biega avait déjà lancé le tourisme. Avant l'arrivée de Covid, on était vraiment en bonne position sur le plan touristique, comme une troisième meilleure destination touristique en Afrique. Mais avec le Covid, nous n'avons pas de touristes qui arrivent, ce qui nous pousse d'ailleurs à faire beaucoup de lobbying pour le tourisme local. On pense que si les Congolais eux-mêmes se donnaient à valoriser ou à la curiosité de connaître ce qui se trouve autour d'eux, ça peut développer un bon tourisme au niveau des pays, au lieu de compter toujours sur le tourisme extérieur. Nous avons vraiment une diminution à haut niveau de la fréquence de touristes, mais il y a aussi des problèmes de transport. Les quelques touristes qui veulent venir chez nous, ils sont butés toujours aux problèmes de transport, aux problèmes d'accès aux avions passés par Rwanda, où ce n'est pas aussi autorisé à l'heure actuelle. Le PNKB offre des opportunités, le PNKB met en place aujourd'hui toutes les mesures de protection, mesures barrières, et nous essayons vraiment de respecter les standings internationaux de sécurité pour sécuriser les touristes et les produits touristiques.
L'économie mondiale pourrait connaître une perte de plus de 4 000 milliards de dollars à cause des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme et que le relèvement de ces secteurs ne pourrait se faire avant 2023, voire plus tard, estime l'Organisation mondiale du tourisme dans un récent rapport publié en marge de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre. Selon ce rapport, le plan mondial de vaccination reste crucial pour élever le tourisme. Plus de détails dans cette analyse de Jean-Pierre Elali Coco.
Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants au monde. Il emploie une personne sur 10 sur la planète et assure le moyen de subsistance à des centaines de millions d'autres. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact économique et social important sur l'industrie du tourisme mondial. Tenez, du fait de la pandémie, pour la seule période de janvier à mai dernier, les arrivées des touristes internationaux ont été de 85% inférieures à leur niveau de 2019 et elles ont connu une baisse de 65% par rapport en 2020, comme le montrent les données de l'OMT. Et toujours d'après l'OMT, les pays en développement ont été les plus touchés par la crise, subissant les plus fortes réductions du nombre d'arrivées des touristes, estimées entre 60 et 80% en 2020. Pour remédier à cette situation, l'Organisation mondiale du tourisme préconise un tourisme pour une croissance inclusive, de sorte que personne ne soit laissé de côté, comme le reconnaît le deuxième principe de l'agenda 2030 pour le développement durable et ses ODD. Par conséquent, le plan mondial des vaccinations demeure crucial pour le relèvement du secteur.
L'Université catholique du Graben à Butembo regrette que l'insécurité dans la région perturbe la production des médicaments dans son laboratoire. Cette université dit ne plus être en mesure d'importer les intrants nécessaires pour fabriquer notamment des médicaments contre les rhumatismes, la toux et des produits pour soigner les maux des yeux. Félicien Baïgana, attaché au laboratoire de l'Université catholique du Graben, invite le gouvernement congolais à faciliter la production locale des médicaments afin de réduire sensiblement la dépendance extérieure. On l'écoute au micro de Florida Kambu.
Cette insécurité affecte d'une manière significative la production de nos médicaments. Il y a une pommade qui est fabriquée à partir de plantes que nous trouvons localement, mais il y a aussi des pommades qu'on fabrique à partir de matières premières que nous importons des pays voisins comme de Nairobi ou des pays de l'Asie. Pour le moment, on a des difficultés d'en avoir. Nous sommes presque à rupture de stock et on ne sait pas les avoir parce que avec l'insécurité, ce sont des matières sensibles. Alors, on a des difficultés d'avoir même des transporteurs qui connaissent les propriétés des produits, ils ne veulent même pas les transporter pour qu'ils ne soient pas les dangers pour eux avec ces mouvements d'incendie de camions. Que les gouvernements puissent permettre l'évolution ou la création des entreprises de production de médicaments. Parce que c'est impossible que tout ce qui nous soigne nous vienne de l'extérieur. Il faut que les médicaments essentiels et vitaux soient quand même fabriqués dans notre pays. On a vu les problèmes avec le Covid quand on a fermé les frontières. Comment nous avons souffert?
Et puis, la société civile d'Eringeti plaide pour que le gouvernement congolais ou les humanitaires construisent des abris pour les nombreux déplacés qui ont trouvé refuge dans cette localité du territoire de Beni, fuyant les affrontements armés dans leur village depuis plusieurs semaines. Son président Bravo Muindo Vukulu fait savoir que les familles d'accueil hébergent parfois jusqu'à 20 personnes, ce qui pose des problèmes de santé liés à la promiscuité. Écoutez ses explications au téléphone de Guylaine Kassassi.
Vous voyez que notre province est voisine de l'Ituri, le territoire du Rumu est quasiment vidé de sa population. Tout le monde s'est déversé à Eringeti et les autres sont partis vers les Komanda et Oichame. La plupart de ces bas peuples-là, qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs très loin, ils sont ici à Eringeti. Alors vous voyez que la vie est devenue un peu compliquée parce que dans un ménage, on peut facilement trouver 15 personnes, 20 personnes. Tout ça, nous sommes en train de voir comme si ça peut nous occasionner d'autres maladies infectieuses. Puisque vous voyez que nous sommes dans de mauvais moments de pandémie, nous sommes 20 dans un ménage. Comment on va respecter les mesures barrières? Donc, nous sommes en train d'employer le gouvernement de voir comment il peut faire ça, comme ils ont fait par Goma. Pourquoi ne pas aussi construire des maisonnettes pour les déplacés qui sont Eringeti, pour faire ce que non, et aussi quand même, sont aussi songés par le monde humanitaire ou par le gouvernement congolais.
Selon Bravo Muindo Vukulu, la localité d'Eringeti compte actuellement environ 4800 ménages de déplacés. Contacté, le bureau du HCR à Beni promet de donner son point de vue à ces sujets dans les prochains jours. En Ituri, 5 miliciens tués, une dizaine d'autres blessés et 8 capturés par les FRDC. C'est le bilan de l'offensive des combats d'hier dimanche après-midi entre l'armée et la coalition ADF et FPIC, Force intégrationniste et patriotique de l'Ituri, dans la localité de Makayanga, environ 5 km de Komanda dans les territoires d'Irumu. Des sources locales rapportent par ailleurs que les casques bleus de la MONUSCO présentent présents sur le champ de bataille ont ouvert le feu sur ces assaillants qui avaient déjà incendié une vingtaine de maisons et un véhicule. Pour le moment, le calme est revenu dans cette localité grâce à cette intervention conjointe des FRDC et de la MONUSCO. Isaac Remoyope nous en parle.
La localité de Makayanga a été prise d'assaut dimanche vers 14h par des hommes armés. Selon les gouverneurs de l'Ituri, il s'agit de la coalition ADF et FPIC. Ces derniers ont attaqué la position des FARDC. Un militaire est mort sur place et deux autres blessés, affirmaient des sources locales. Ces hommes armés ont également incendié au moins 25 maisons d'habitation et de commerce, ainsi qu'un véhicule qui était en panne. D'autres militaires venus des commandes sont vite intervenus pour déloger ces rebelles. Les forces loyalistes ont été précédées sur place par des casques bleus de la MONUSCO à bord de leurs chars de combat qui ont tiré plusieurs coups de feu pour repousser l'ennemi. Selon les gouverneurs de l'Ituri, l'armée contrôle depuis dimanche soir cette localité. Ils dressent un bilan de 5 morts parmi les assaillants, une dizaine de blessés et 8 autres miliciens capturés. Le général Johnny Luboya déplore la présence des fils du millier parmi les otages.
Le village de Makayanga a été récupéré tard le soir. La plupart de l'ennemi que nous avons été même capturés, ce sont les enfants de commandants. Cela montre que vraiment au niveau de l'accompagnement sur le plan, n'est-ce pas, politique, cela ne s'est pas encore réalisé.
Toute la localité de Makayang est pour l'instant vidée de ses habitants, dont certains ont trouvé refuge à Bunia. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour parler de cette attaque la nuit dernière par un groupe de miliciens de la Kadeko au village d'Iguené, dans le territoire de Djougou. Des sources concordantes dressent un bilan de 3 civils tués. Ces miliciens ont également pillé plusieurs biens de la population avant de se retrancher dans leur bastion à Lissey, non loin du drame. La société civile et les notables dans la zone demandent au gouvernement de lancer des opérations contre ces groupes armés qui contrôlent encore certaines localités. Dans un autre chapitre, les prestataires des santé de l'hôpital secondaire de Manzansai, situé dans la zone de santé de Bagata, à près de 100 km de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ont bénéficié samedi dernier d'une formation sur la pharmacovigilance. Celle-ci consiste à notifier et évaluer les événements indésirables ou les réactions résultant de l'utilisation des médicaments afin d'assurer leur sécurité d'emploi dans les conditions normales. Selon le docteur Patrick Amiza, superviseur et formateur venu du centre régional de la pharmacovigilance de Bandundu, le but de cette formation est de sensibiliser ces derniers afin qu'ils soient à mesure de notifier désormais ces événements indésirables des médicaments afin qu'ils soient transmis à la hiérarchie. Irène Boma.
Au moins 15 agents de santé, tous du centre de santé de référence de Manzansai, ont bénéficié de cette formation d'un jour sur les activités de la pharmacovigilance. Le docteur Patrick Labila Amiza, superviseur et formateur, explique la quintessence de cette formation.
Notre but à Manzansai est de former les prestataires sanitaires qui soient capables de détecter et de notifier tous les événements indésirables des médicaments pharmaceutiques et traditionnels afin de nous envoyer au CRPV, lequel seront envoyés au CNPV, ce qui déterminera la décision afin qu'il y ait une bonne sécurité d'emploi des médicaments dans notre pays.
Satisfait, Dr Ngia Bakankar, médecin directeur de cette formation sanitaire, s'est exprimé en ces mots.
Nous étions dans l'ignorance. Il nous a donné l'information. Nous avons beaucoup de problèmes de tradis praticiens qui donnent les médicaments sans dose. Les malades après souffrent de coliques abdominales, des intoxications. Maintenant, aujourd'hui, comme nous venons d'être formés, nous allons faire beaucoup d'efforts pour faire sortir tous ces événements indésirables.
Notez qu'au même moment, la dite formation s'est aussi organisée à Kikongo, dans la zone de santé portant les mêmes noms. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, remise le week-end au centre hospitalier de Boya, dans le territoire de Miabi, d'un lot important d'équipements médicaux, dont de la société Anui Congo d'investissement. d'investissement minier, SACI Mon Sigle. La cérémonie s'est effectuée sur place à Boya en présence de quelques autorités coutumières, administratives et hospitalières. Ces équipements sont constitués des lits, des balances électroniques, des tables chirurgicales pour les blocs opératoires, des tables roulantes et bien d'autres. C'est donc intervient 3 ans après la construction de ces centres hospitaliers par la société Anui Congo d'investissement minier SACIM dans le cadre de la redevance minière. Cette dotation permet aux malades de Boya de suivre les soins dans leur localité au lieu de se rendre à Miabi à plus ou moins 20 km. Dans la province du Maniema, l'Office des voiries et drainages, OVD, est en pleine réhabilitation de 3 chantiers situés dans les quartiers les plus reculés de la ville de Kindu. Il s'agit de l'avenue qui mène vers les cimetières de Kabulongo, vers Omata, la construction d'un pont sur le tronçon sans maison jusqu'à l'université de Kindu, en passant par Tokolote, mais aussi la réhabilitation de 3 avenues dans les blocs Matapa et Tokedi. Plus de précision avec Florence Kizalunga.
Ghislain Mougalou est le directeur provincial de l'OVD. Il explique en quoi vont consister les travaux.
Là, les travaux consistent au reprofilage, rechargement et compactage. On a commencé d'abord sur la voirie, sur l'avenue Kabulungu. C'est une avenue de 2,3 km. Cette avenue débouche jusqu'au cimetière. C'est ça l'importance même de cette avenue. C'est pour permettre aux gens de circuler librement et facilement avec les morts.
La population environnante se réjouit du lancement de ces travaux de réhabilitation tout en espérant qu'ils vont aller jusqu'au bout. Réaction.
Nous les habitants de cette partie de la ville, nous sommes très contents. Notre route s'était devenue impraticable. Nous remercions OVD pour les travaux. Nous pensons qu'il n'y aura plus les accidents ici.
Nous sommes tellement contents de ces travaux. Merci à OVD. Nous demandons que les travaux aillent vite. Ici chez nous, il y avait beaucoup d'accidents. Merci beaucoup pour les travaux.
Signalons que ces travaux rentrent dans le cadre de l'exécution des projets à impact rapide initiés par le gouvernement provincial du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Facebook déclare mettre sur pause le développement d'une version d'Instagram pour les enfants. La plateforme l'a annoncé ce lundi afin de répondre aux critiques émises avant même son lancement au nom de la santé mentale des enfants, écrit l'AFP. Au Royaume-Uni, devant les stations-service, les queues s'allongent. D'après la presse locale, le gouvernement envisage de faire appel à l'armée pour livrer du carburant. En attendant, les règles de la concurrence ont été temporairement suspendues afin d'aider les distributeurs à lutter contre la pénurie.
L'invité.
Le monde célèbre ce lundi 27 septembre la journée internationale du tourisme. En Ituri, les réserves protégées sont la cible des groupes armés. C'est le cas de la réserve à Faune Okapi, RFO, qui est toujours sous menace des groupes armés, la chasse illicite et l'exploitation des minerais au sein de son site. Pour en parler, nous recevons Berce Sinfoana, manager du programme Wildlife Conservation Global pour le projet de conservation de l'Okapi. Il s'entretient avec Marcel Kizabiamungu.
Monsieur Berceau, sa foi ça. Bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de lieu de la réserve à faune à Okapi à cette journée internationale du tourisme?
La situation sécuritaire à ce jour est relativement calme, mais il reste quelques poches de défis où nous devons relever, notamment l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle. Il y a aussi un problème de la chasse, la chasse pour la commercialisation de la viande de brousse, mais aussi à cela il faut adjoindre un grand problème de l'immigration, des allochtones qui viennent s'installer au sein de cette réserve-là pour fins diverses.
Vous avez dit qu'il y a un problème aussi sécuritaire. Alors, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réserve ne soit pas la cible des groupes armés?
Bien, nous avons tout un programme de protection et ce programme a comme intérêt juste la mise en application de la loi à travers les éco-gardes qui font régulièrement des patrouilles dans cette réserve là-bas. Aux côtés du programme de protection, nous sensibilisons les communautés locales à collaborer avec l'ICSM pour essayer de boucher toutes les entrées des gens mal intentionnés, les gens armés, pour ne pas détruire cette réserve aussi importante que nous avons, la RFO.
Alors, votre réserve est aussi confrontée au problème de l'exploitation minière. Comment comptez-vous faire pour mettre fin à ces phénomènes?
Nous sommes confrontés à ces problèmes d'exploitation minière, comme je le disais tantôt, donc il faut la mise en application de la loi. Il faut que nous, Congolais, et ceux qui viennent aussi en dehors du pays puissent respecter les réglementations en vigueur. Donc, l'exploitation minière est interdite au sein de la réserve ou de toutes les aires protégées. Donc, les gens doivent se conformer à cela. Et deuxièmement, comme je l'ai dit également tantôt, donc il y a un programme de communication. Nous continuons à sensibiliser les communautés locales riveraines pour qu'elles comprennent l'importance d'avoir cette réserve. Et donc, c'est à travers cette sensibilisation de façon permanente, une sensibilisation de proximité avec les communautés locales que nous pouvons arriver à sauver cette réserve au détriment de l'exploitation minière.
C'est la journée internationale du tourisme. Parlons des okapis qui font la fierté de cette réserve. À ce jour, combien d'okapis compte cette réserve?
À ce jour, il est difficile d'avoir les chiffres exacts de combien d'okapis nous avons. Mais ce qui est sûr, nous avons encore des okapis à l'état sauvage qui sont libres dans la nature. Mais il faut le dire qu'il y a une pression énorme qui pèse sur cette espèce emblématique de notre pays et cette espèce phare de la réserve des faunes à Okapi. Donc, nous devons tout faire pour la protéger. Et donc, il faut des inventaires scientifiques qui viendront dans le jour qui arrive là-bas pour nous donner des vrais chiffres combien d'individus que nous avons encore dans la réserve des faunes à Okapi.
Est-ce que ces Okapis sont visibles concrètement?
Oui, les Okapis sont visibles. Les Okapis sont visibles. Nous avons tout un programme de recherche et nous utilisons les caméras trap qui nous prouvent la présence des okapis à l'état libre et même au quartier général de la réserve, à Ipoulou je dirais, donc au village même il y a deux okapis qui acceptent aussi la présence de l'homme, c'est-à-dire que vous pouvez observer cet animal là-bas à l'état sauvage sans pour autant être dans un enclos où il peut se sentir limité. Donc vous pouvez observer les okapis avec votre propre yeux.
Alors, pour terminer, que faudra-t-il faire pour que cette réserve soit au lieu d'attraction touristique qui attire les touristes congolais, africains et du monde entier?
Oui, merci bien. À cette question-là, les responsabilités sont partagées. Mais à notre niveau, ce que nous pouvons demander à nos autorités, c'est une garantie sécuritaire. Je pense que s'il y a la sécurité, les Congolais peuvent arriver à Ipoulou, visiter les attraits touristiques que nous avons là-bas, dans la réserve, mais aussi les étrangers. S'il y a la sécurité, si nous n'avons pas des tueries sur les routes, comme vous pouvez les suivre dans les médias ces derniers temps. Donc je pense que ça va attirer l'attention de beaucoup de monde pour venir visiter cette réserve.
Monsieur Berce Sanfoissa Disiki, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci, Justine. Je vous retrouve à 19h.